Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Réjouis-toi, Jérusalem, c'est-à-dire l'Église. Rassemblez-vous, vous tous qui l'aimez, qui aimez l'Église, vous qui avez été dans la tristesse, afin que tous vous exultiez et soyez rassasiés aux sources de votre consolation. Chers fidèles, c'est par ces mots que la liturgie a introduit cette messe du quatrième dimanche de Carême, invitant l'Église entière et donc nous tous à exulter de joie. Une joie qui est tellement présente dans la liturgie d'aujourd'hui qu'elle a donné son nom à ce dimanche, le dimanche Laetare, du premier mot de l'introït, le dimanche où l'on doit se réjouir. La couleur des ornements est le rose. Pour tempérer l'austérité de la couleur violette, l'autel est orné de fleurs, l'orgue se fait entendre. Que se passe-t-il en plein temps de pénitence? C'est que l'Église est une mère. Le carême est un peu long. Alors aujourd'hui, en ce dimanche encore appelé de la mi-carême, où nous sommes arrivés à la moitié de notre marche, l'Église veut ranimer notre courage en nous montrant que si nous persévérons dans nos efforts, nous arriverons à la source de toute consolation et de toute joie possible sur cette terre. Rassemblez-vous, vous tous qui aimez l'Église et qui avez été dans la tristesse, afin d'être rassasiés aux sources de votre consolation. Pour cela, l'Église ne pouvait mieux faire en ce dimanche que nous rappeler le miracle de la multiplication des pains rapporté par saint Jean et que l'on trouve aussi chez saint Matthieu et saint Luc. Nous sommes arrivés à la deuxième année de la vie publique de notre Seigneur, à l'approche de Pâques. En ce temps-là, dit l'Évangile, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait. On ne parle pas ici des pharisiens et des scribes qui pourchassaient toujours Jésus pour essayer de le prendre en défaut. Cette foule, c'était donc les gens du peuple, les humbles, les pauvres, hommes, femmes, enfants, accourus de toutes les villes alentour, qui suivaient Jésus. Il ne faut pas se faire trop d'illusions sur leurs motifs. Ils allaient à notre Seigneur, non à cause de sa doctrine, mais à la vue des miracles qu'il faisait sur les malades, nous dit saint Jean. Cependant, Jésus va profiter de leur présence pour leur faire du bien. Examinons comment il s'est conduit envers ces gens afin d'en conclure comment il agit envers ceux qui le suivent, c'est-à-dire nous aujourd'hui. D'abord, dit saint Marc, Jésus fut touché de compassion parce qu'ils étaient comme des brebis sans pasteur. Pourtant, Dieu avait institué des prêtres, des scribes pour les guider. Mais avec le temps, ils avaient perverti le sens des Écritures. Ils avaient donné une signification purement terrestre à la religion, prêchant un messie temporel, une sorte de chef militaire qui les délivrerait des Romains et leur ferait dominer les nations. Il n'était plus d'aucune utilité pour les âmes. Et l'on peut dire que ce qui est arrivé aux autorités spirituelles juives de l'époque arrive maintenant à la plus grande partie des pasteurs de l'Église, spécialement au plus haut sommet. Qui aujourd'hui, dans la hiérarchie officielle, parle encore du salut des âmes ? De la nécessité de rentrer dans l'Église et d'être en état de grâce pour être sauvé. Qui parle encore du ciel, de l'enfer, du purgatoire? Le pape François vient de publier un livre pour résumer son pontificat en 10 points, qui font l'objet d'autant de prières qu'il demande à tous les fidèles d'adresser à Dieu. Il a écrit ce livre pour les 10 ans de son élection. Il y invite les catholiques à prier pour que les portes s'ouvrent aux migrants, pour que les médias évitent les fake news, les fausses nouvelles, pour que tous accèdent aux soins de santé, pour que l'on protège la maison commune du monde, etc. Aucune allusion à notre Seigneur, rien de surnaturel, uniquement de l'humain, et un ensemble de souhaits que pourrait faire un représentant des Nations Unies. Pendant ce temps, le monde va à la dérive et une multitude d'âmes tombent en enfer. À Fatima, les enfants les ont vus tomber comme une pluie fine, ininterrompue. C'était en 1917. On n'ose pas penser à ce que cela peut être aujourd'hui. Il y a 2000 ans, le peuple juif s'est détourné de celui qu'il avait été chargé d'annoncer au monde. Et maintenant, 2000 ans après, ce sont les peuples qui s'étaient convertis qui, à leur tour, se détournent du seul Sauveur et tombent dans l'apostasie. La Sainte Écriture parle de ces deux chutes. Dans l'histoire du monde, dit saint Thomas d'Aquin, Dieu aura permis que tout le genre humain, d'abord les Juifs, plus tard les non-Juifs, finissent par tomber dans l'incrédulité, enchaînés par les mêmes liens de ténèbres, pour qu'à la fin, il fasse miséricorde à tous, car il veut que tous soient sauvés par sa miséricorde, afin qu'ils trouvent un sujet de s'humilier et qu'ils attribuent leur salut non à eux-mêmes, mais à Dieu. Saint Paul annonce qu'à la fin, les Juifs se convertiront, et Notre-Dame à la Salette et à Fatima prédit un retour des nations à notre Seigneur, semble-t-il après un temps d'épreuve et avant la venue de l'Antéchrist. Qu'a fait en premier lieu notre Seigneur pour cette foule abandonnée de ses pasteurs et qui était venue à lui? Les ayant accueillis, dit saint Luc, il se mit à les instruire longuement, leur parlant du royaume de Dieu. C'est que la première étape du salut, c'est de croire. Comment aller au ciel qui est la récompense de nos bonnes actions si l'on ne sait même pas qu'il y a un ciel et comment l'on doit y parvenir? Ou si une vie de péché a fini par le faire oublier? Au milieu du XVIIIe siècle, le pape Benoît XIV écrivait qu'une grande partie de ceux qui sont condamnés aux supplices éternels subissent ce châtiment sans fin à cause de leur ignorance des mystères qu'il leur est nécessaire de savoir et de croire pour être placés parmi les élus. Le pape Saint Pilice a même fait toute une encyclique sur l'importance pour les fidèles de bien connaître la doctrine chrétienne. Nous dirons, mais nous avons la foi, nous l'avons reçue au baptême, et le dimanche, nous chantons le credo avec conviction. Sans doute. Et rendons grâce à Dieu de l'avoir gardé. Mais n'oublions pas que cette foi a besoin d'être nourrie, d'être entretenue. On constate, par exemple, qu'on n'assiste pas toujours avec beaucoup de ferveur à la messe. On a plein de distractions. On pense à ce que l'on va faire dans la semaine. Mais si l'on savait mieux ce qu'est réellement la messe, ce qu'elle produit, comment on doit y assister, cela nous aiderait certainement. On trouve que nos confessions, nos communions ne nous apportent pas beaucoup, ne nous changent pas. C'est la routine. Mais est-ce qu'on sait comment bien se confesser, comment bien communier, comment faire action de grâce après la communion? On se décourage devant les difficultés de la vie, les épreuves. Elles nous abattent parfois. Si l'on savait qu'elles sont toutes voulues ou permises par la divine providence pour notre bien, et si l'on savait comment les utiliser, cela changerait notre vie, etc., etc. Profitons donc de ce carême pour nous examiner sur notre zèle à entretenir notre vie de foi par la lecture. Par exemple, Avons-nous en ce moment en cours un livre de doctrine ou de spiritualité, une vie de saint? Ou est-ce que ces livres sont en train de prendre la poussière sur une étagère? Vous savez que pour vous aider, nous organisons des conférences le lundi soir, un catéchisme pour adultes, une explication des évangiles. On peut bien sûr avoir des empêchements tout à fait légitimes qui ne permettent pas de s'y rendre, mais c'est à chacun de se demander, à l'occasion du carême, s'il ne peut vraiment pas faire un effort pour aller à ces conférences qui feraient du bien à son âme. Peut-être que par ailleurs, on perd beaucoup de temps à des choses inutiles. Le jour commençait maintenant à baisser. On était dans un lieu désert. Comment nourrir une telle foule avec les 5 pains et les 2 poissons qu'un jeune homme a apportés avec lui? Vous connaissez la suite. Nous venons de la lire dans l'Évangile. En accomplissant l'un de ces miracles les plus spectaculaires, notre Seigneur n'entendait pas seulement conforter la foi de ses auditeurs et celle encore bien faible de ses apôtres qui devraient un jour faire connaître ses enseignements au monde entier. Regardant ses apôtres distribuer le pain à cette foule bien placée et en ordre, il les voyait plus tard et les prêtres de son Église jusqu'à la fin du monde distribuer aux âmes le pain de vie qu'il est lui-même. Ce miracle de la multiplication des pains annonçait l'institution de la Sainte Eucharistie. Et elle est là, la source de toute consolation qui seule peut rassasier nos âmes et dont parlait l'introïte. C'est pourquoi la Sainte Église a voulu placer cet évangile dans la messe de ce 4e dimanche de carême. La consolation dont il s'agit ici, d'ailleurs, n'est pas nécessairement sensible. C'est surtout une consolation spirituelle, celle que l'Église demande à Dieu pour nous dans l'oraison d'aujourd'hui. Nous qui, par nos péchés, avons mérité d'avoir des épreuves, accordez-nous de reprendre souffle par la consolation de votre grâce. Oui, c'est l'Eucharistie qui est la consolation du chrétien, parce que l'Eucharistie, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. La communion, c'est la rencontre avec quelqu'un, c'est la grande rencontre de notre vie, c'est la rencontre avec celui qui est la source de toutes les grâces et qui par là est notre vie, la vie de notre âme, la vie pour laquelle notre âme a été créée. Vie de notre âme avec la Sainte Trinité habitant en nous par la grâce. La communion, c'est la rencontre avec celui qui est notre force, pour accomplir les sacrifices de nos devoirs quotidiens, qui est notre force pour supporter les croix de la vie, parce qu'à la communion, c'est Jésus qui vient en nous pour porter lui-même nos croix. Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous soulagerai. Continuons donc nos efforts de carême, nos pénitences, nos efforts de vertu, nos confessions. C'est cela qui préparera notre âme à la grande rencontre. En attendant, le banquet éternel du ciel dont l'Eucharistie est l'annonce. L'etatus sum in his quae dicta sunt mihi in domo domini ibimus. Je me suis réjoui lorsqu'on m'a dit, nous irons dans la maison du Seigneur. C'était le graduel de la messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.